16h20 minutes dans le Point de Max à Boulevard 102.1. S'il y a quoi que ce soit par texto, c'est le 418-971-1021. D'ailleurs, sur les routes, il y a encore quelques problèmes par endroit. Puis je semble voir par ma fenêtre ici dans le Bourgneuf que la neige a repris un petit peu d'intensité. Ça a pas été beau sur les routes ce matin. Puis comme je vous disais, il semble encore y avoir des problèmes. Fait que n'hésitez pas, 418-971-1021. Fait que oui, ça a brassé sur les routes dans les dernières heures, mais tabarouette que ça brasse à l'international. C'est essoufflant là, depuis... J'allais dire quelques jours, oui, peut-être particulièrement, quelques semaines assurément. Mais même là, on est dans les un an depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche. Puis depuis ce temps-là, en fait, là, on s'entend qu'on a atteint un niveau d'intensité à ce qui se passe à l'international assez élevé. Et pour en parler de tout ça et également de ce qui se passe chez nous du côté d'Ottawa, là, au gouvernement fédéral, Sandra Aubé, qui est aux affaires fédérales chez TAC. Sandra, salut!
Salut!
Comment ça va?
Ça va occupé? Ça va la broue dans le toupette?
On va commencer par mettre la table, là, puis je le disais avant de te parler aux auditeurs, là, on va revenir sur ça relativement rapidement parce que ça fait deux jours que c'est arrivé, puis j'ai l'impression qu'on a entendu tout le monde le commenter puis mettre son petit grain de sel là-dessus. Mais en même temps, il y en a tellement qui disent à quel point ce discours-là pourrait être historique que je me dis, deux jours plus tard, on est encore pas mal dessus. Est-ce que tu as trouvé le discours de Mark Carney à Davos aussi magistral qu'à peu près tout le monde?
J'ai trouvé que c'était un pivot pour la politique étrangère du Canada, c'était certain. On n'a pas vu de discours dans les dernières années qui pouvait avoir cette portée-là. En même temps, ce qui se passe, c'est historique. Puis on n'a pas vu de pression comme ça depuis probablement la chute du mur de Berlin, là. Donc, il y a vraiment un momentum. Je l'ai trouvé très bon, mais comme on dit souvent, la grande question qui persiste pour moi, là, c'est est-ce qu'il y a des pays qui vont vouloir se joindre un peu à cette coalition-là de pays de force comme le Canada, comme on dit en anglais un medium power, donc un pouvoir, un pays qui est un peu au milieu. On n'est pas une superpuissance, on n'est pas un pays en voie de développement, on a des bonnes choses, mais on n'est pas le leader mondial. Par contre, Carney, ce qu'il a fait avec ce discours-là, il s'est mis sur la map, il a mis le Canada sur la map comme pouvant être un leader, une force qui allait amener justement ces pays-là vers l'avant. Mais c'est ça, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont aussi lever le petit drapeau dans les airs et dire « ouais, nous autres, on va être de cette gang-là » ou est-ce que, et aussi l'autre question, c'est est-ce qu'il y aura un prix pour le Canada à payer?
Oui, bien, c'est drôle que tu finisses avec ça parce que c'est drette là, je m'en allais. Il y en a qui, en contrepartie, disaient « ouais, tu sais, l'expression « poke the bear », là, d'aller taquiner l'ourson, ça peut être dangereux. » Puis on a pu voir le lendemain dans le discours de Donald Trump qu'il n'avait pas apprécié quand il s'est directement adressé à Mark Carney en disant « le Canada survit grâce aux États-Unis ». Et là, il s'adresse à Mark Carney en disant « Mark, souviens-toi de ça la prochaine fois avant de faire un petit discours. » Il y avait un certain niveau de dangerosité.
Oui, je pense que le premier ministre a regardé, a calculé ses risques, puis s'est dit, dans l'état des choses, on doit revoir la CEUM, comme les discussions, comme tout le monde parle de ces discussions-là, mais qui n'ont pas, ça n'a pas vraiment, il n'y a pas de oomph encore autour de ça. Là. Puis il s'est dit que j'ai pas vraiment de levier de ce côté-là. Les États-Unis n'arrêtent pas de changer de plan, comme il y a des risques partout. Puis comme ce qu'il nous dit depuis le début, quand je vais contrôler ce que je peux contrôler, moi j'ai l'impression qu'il a essayé de faire ça, puis il va dire comme... personne ose élever la voix. Puis c'est ce qu'on se dit depuis le début, hein, Max? Comme là-dedans, on a l'impression que tout le monde se fait pousser dans les coins, là, qu'il y a du bullying, mais qu'il y a personne qui ose vraiment élever la voix parce que élever la voix, ça te met directement dans la cible, puis tu vas être le prochain à être possiblement la victime s'il décide de s'animer, ce président. Puis on a l'impression que Carney a décidé de faire comme, ben moi, je vais me tenir debout, pourrait avoir des conséquences, mais à un moment donné, il faut que quelqu'un fasse. Fait que Fait que c'est un discours qui a résonné partout à travers le monde. Mes amis qui sont américains ou d'autres nationalités à travers le monde, que j'ai du monde comme à Taïwan qui a communiqué avec moi pour me dire qu'on a vu les échos, on a vu le discours de votre premier ministre, puis là, tout le monde m'envoie des coupures de presse. C'est rare, puis tu le mentionnais d'entrée de jeu, puis je veux le souligner pour les auditeurs. La politique internationale, normalement, on n'en entend pas parler autant que ça dans nos nouvelles. Comme, tu sais, ton show, t'es probablement pas habitué de tout le temps, ou du moins avant l'an dernier, de tout le temps ouvrir, puis d'avoir comme, à chaque matin, là, il se passe quelque chose en politique internationale. Puis j'en ai fait des nouvelles avant, dans mes plus jeunes années. On n'ouvrait pas le show avec des nouvelles internationales, à moins qu'il soit passé quelque chose. Les nouvelles internationales, c'est quelque chose qui est important, mais c'est pas ça qui fait bouger l'échiquier politique normalement. Puis au quotidien, quand on est à la maison, c'est pas ça qui a une si grosse influence sur notre portefeuille. Mais là, tout ce qui se passe à travers le monde, ça a une influence, puis ça compromet possiblement notre gagne-pain, notre avenir. Comment nos enfants vont grandir, les questions de sécurité, c'est gros.
T'sais, pour amener les auditeurs dans la poutine interne, là, moi, puis c'est une façon personnelle de travailler, mais je pense que c'est assez répandu qu'on apprend à le faire comme ça, là. Souvent, dans des bulletins de nouvelles, tu vas avoir les faits divers, c'est très local. Tu vas avoir le municipal, le provincial, le fédéral, puis tu vas finir avec les nouvelles à l'international. Habituellement, l'ordre, ça ressemble pas mal toujours à ça. Et là, c'est pas rare qu'on commence les bulletins de nouvelles avec Donald Trump, avec ce qui se passe à l'international. Fait qu'en effet, on est comme rendu ailleurs par rapport à tout ça. Sandra Aubé, je veux t'amener sur Pierre Poilievre, le chef du Parti conservateur du Canada, qui était d'ailleurs en entrevue hier matin sur nos ondes. Vous pouvez récupérer ça sur le blvd.fm, Lab Boulevard, le YouTube également. Puis, c'est une opinion personnelle, mais je trouve qu'il a l'air perdu un peu, Pierre Poilievre, ces temps-ci. C'est pas trop où se placer. T'sais, hier, sur nos ondes, répondait un peu en disant « Ben, tu sais, dans 3 ans, ce sera plus Donald Trump qui sera là, donc faut continuer à... » Puis c'est une position qui se vaut, mais on se dirait qu'il y a de la misère à savoir où se placer, Pierre Poilievre.
Oui, on dirait qu'on le voit pas. On ne le voit pas beaucoup dans cet espace médiatique qui est tellement mobilisé par les questions qui se passent à l'international, puis les grosses questions économiques, la relation Canada-États-Unis, puis honnêtement, toutes les énormités qu'on entend, là, des fois d'un bord puis de l'autre. Donc, je pense qu'il y a un défi à trouver son espace. L'élément que je dis toujours par rapport à Pierre Poilievre, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer le travail qu'il fait, le travail de fond auprès de son électorat conservateur, les membres de son parti. Il est clair qu'au cours des derniers mois, c'est là-dessus que l'accent a été mis. Donc, aller travailler le fond, et il utilise en effet des messages qui vont venir parler spécifiquement à cet électorat-là. Si on regarde cette semaine ce qui est sorti, t'sais, on revient vraiment t'sais, au niveau du coût de la vie ou les questions de taxes carbone qui sont pas sur le dessus de la table comme présentement quand on discute, comme c'est pas vraiment ce qui nous vient à l'esprit. Le coût de la vie, oui, puis on pourra y revenir. Mais donc, je pense qu'il parle à sa base, mais c'est sûr que ça crée une déconnexion par rapport au discours public, puis par rapport au leadership plus global. T'sais, si on allait en élection demain matin, puis qu'on en revenait encore à qui fait le meilleur leader, t'sais, la question se pose. Parce que si on regarde les sondages, les conservateurs et les libéraux, d'un point de vue national, sont très, très, très près. Mais il y a une différence au niveau de qui ferait le meilleur premier ministre, et c'est là où M. Poilievre n'a pas le haut du pavé. Donc, il devrait encore essayer d'élargir sa tente. On parle souvent comme ça dans le milieu politique. Tu veux pouvoir rentrer plus de monde, amener plus de monde pour voter avec toi, pour venir déclencher puis réussir à aller former le gouvernement. Puis là, clairement, il y a quelque chose qui accroche, là.
Si on reste dans cette traque-là avant de revenir vers notre sujet, disons, principal, Sandra, là, si je comprends bien donc ce que tu me dis, le vote de confiance à la fin du mois pour Pierre Poilievre, parce qu'il parle beaucoup à sa base conservatrice, devrait pas avoir trop de problèmes?
C'est ma lecture, oui.
OK.
Mais on verra à quelle hauteur il se positionne. Hein, il communique de manière très, comme, t'sais, on n'en parle pas vraiment de ça, de ces choses-là. Donc on verra. On verra qu'est-ce qui va ressortir. Est-ce que je m'attends à ce que ses électeurs, pardon, que les membres de son parti lui accordent leur confiance d'une manière très majoritaire. Comme de mon côté, c'est oui. Mais comme on a déjà discuté aussi, La base du parti, c'est une chose, mais après ça, les autres personnes qui viennent te financer, les grands bonzes du parti, les éminences grises, comme où est-ce qu'ils en sont par rapport à monsieur, par rapport à monsieur Poilievre. Tu sais, on voyait un ancien, je pense que c'est monsieur Moore, ancien ministre conservateur du patrimoine, qui est sorti sur les médias sociaux par rapport au narratif de monsieur Poilievre pour faire comme, ben, voyons donc, comme on peut-tu, comme parler des choses du moment. Donc, il y a quand même une déconnexion, là. Il y a des belles-mères qui s'élèvent au niveau du parti.
Je veux qu'on revienne à Trump. Il a annoncé hier qu'il y avait les bases d'un deal concernant le Groenland. On sait à peu près rien de ça. On sait pas qu'est-ce que... Parce que là, il a jasé avec l'OTAN, là, puis là, on sait rien. On n'a aucune idée. Trump, est-tu gagnant? On sait qui... On le connaît, Donald Trump, on sait ce qu'il fait. Il en demande énormément. Puis quand il finit par avoir un certain gain, ben il vend comme un gros gain. Normalement, c'est ça le modus operandi de Donald Trump. Est-ce que ce sera ça dans ce cas-là? On verra. Là, ce matin, il présentait son fameux conseil de paix. Comment on se place en ce moment? Mettons, on est Mark Carney, là. On le regarde aller, on réagit pas trop, puis on attend.
Je pense que c'est probablement une des meilleures stratégies à avoir présentement. Il se passe tellement de choses. Tu sais, par rapport à M. Trump, tu veux pas être dans son viseur nécessairement. Une des choses que j'entends souvent quand je parle à des spécialistes de la relation canado-américaine ou à des universitaires, c'est qu'on parle trop du Canada devant M. Trump. Puis quand on parle de nous devant M. Trump, c'est comme si tu deviens le petit objet brillant qu'il voit, puis il va aller là-dessus. Donc, je pense que c'est bon de prendre un petit pas en arrière, de laisser d'autres personnes prendre la chaleur peut-être là-dessus, puis de réviser la position, tu sais, par rapport au fameux Conseil de paix sur Gaza. Comme ma lecture, c'est que ça donne l'impression que les États-Unis, sous Donald Trump, l'administration, veulent tranquillement, ou peut-être pas si tranquillement que ça, se substituer aux Nations Unies, qui a des programmes, qui a des choses en place pour venir offrir l'aide qui est nécessaire. Monsieur Carney l'a souligné. Ce qui est important, c'est que l'aide puisse se rendre auprès des gens, et l'aide ne se rend pas comme il faut auprès des gens présentement. Donc, t'sais, ces milliards-là, ça va aller où? Ça va être distribué de quelle façon? Il y a beaucoup d'obscurité. Puis est-ce que en participant à ça, on vient encore, puis je vais être avec mes grands mots, là, mais est-ce qu'on vient encore affaiblir l'ordre mondial qui l'est déjà, là, comme les colonnes du temple tremblent? Est-ce qu'on vient mettre toutes nos billes entre les mains d'un président américain qui continue à chercher plus de pouvoir? Peut-être que ce qu'il veut faire est noble, t'sais, comme de vouloir aider, comme les difficultés sont immense là-bas. Donc, de mobiliser des pays au-delà de, tu sais, les Nations Unies sont quand même critiquables, et puis il y a quand même de la bureaucratie dans tout ça. Donc, vouloir mobiliser des gens, des leaders, comme je pense que c'est une bonne chose, mais comment ça va se faire? Comment l'aide va se rendre? C'est quoi les mécanismes de transparence? Est-ce que ça va juste être comment le président américain veut faire? Ou est-ce que c'est un conseil qui aurait autre chose? En tout cas, je pense qu'on vient diluer la portée de nos institutions internationales, c'est extrêmement inquiétant.
Sandra, on revient ici à Québec. Mark Carney qui tient son conseil des ministres pré-rentrée 2026 aujourd'hui et demain. Première question, pourquoi on fait ça à Québec? Est-ce qu'il y a du politique derrière ça, de l'image?
Ben, premièrement, j'ai envie de dire parce que Québec, c'est une ville fantastique, c'est magnifique, puis que tout le monde devrait aller visiter Québec. Mais c'est une belle destination. Mais au-delà de ça, c'est sûr qu'il y a de la politique à faire. On ne choisit jamais une destination purement par hasard. Donc, à Québec, il y a des circonscriptions, comme d'un point de vue politique, pour les libéraux, hein, parce que c'est la retraite du cabinet libéral, donc les ministres qui sont là. T'sais, on sait qu'il y a des sièges souvent qui se jouent à la dernière minute, chaque vote compte. Donc, je peux penser à des députés là, au niveau de Limoilou, je peux penser à M. Duclos qui a été ministre pendant longtemps. Comme c'est des batailles très dures qui sont livrées, il y a beaucoup d'adversité à Québec. Donc, de venir donner de l'amour, c'est une chose qui est bien vue. Ça donne l'occasion souvent pour différents ministres aussi de rencontrer des intervenants locaux, de prendre le pouls, comme de bien de bien saisir les défis. Puis après ça, ben, quand on s'en va au cabinet, on peut revenir. Puis quand ils vont avoir des rencontres et parler des enjeux de la région Québec, il y aura une sensibilité. Mais honnêtement, c'est une retraite du cabinet qui va passer extrêmement vite. C'est un 24 heures à peu près, extrêmement condensé. Donc, les ministres sont pas là pour faire du tourisme. J'espère qu'ils vont profiter de l'excellente cuisine de la ville de Québec. Mais ça va être très vite. Ensuite, ils se rapatrient à Ottawa, où là, ils vont faire leur caucus précessionnel avec l'ensemble des députés en fin de semaine. Puis ensuite, la session recommence lundi.
Les travaux qui reprennent, tu le disais, la semaine prochaine, est-ce que tout va tourner autour de l'économie puis de la diversification des marchés encore, ou on va quand même avoir d'autres choses, des nouvelles, d'autres sujets dont on va pouvoir parler?
C'est une bonne question. Je pense que suivant et on verra comment les oppositions vont être activées. Je pense que suivant le voyage du premier ministre en Chine et le réengagement, on va voir une opposition notamment conservatrice qui va être activée sur des questions d'ingérence étrangère, sur les questions possiblement par rapport aux véhicules électriques. Donc toutes ces questions-là vont probablement revenir en période de questions dans des comités parlementaires. Donc ça va être un élément. Je pense que la question du coût de la vie va revenir. Vous voyez une annonce, il y a en fait une entente là, entre le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec au niveau pour le logement. Donc ça, je pense que tranquillement, on va voir ce pivot-là un peu plus. Mais ce qui va continuer de rythmer notre actualité politique, ça va demeurer l'économie. Un, c'est le dada du premier ministre, c'est pour ça qu'il est là, pour diversifier. Deux, les pressions sont immenses sur le trésor public, sur les entreprises qui vivent des difficultés par rapport à tout ce qui se passe avec les États-Unis. Et donc, faudra surveiller ça. On continue à surveiller l'inflation. Mais donc pour moi, ça va vraiment être ça, comme la CIUM, diversification des marchés. Puis, coût de la vie.
Sandra Aubé, vice-présidente affaires fédérales chez TAC, merci beaucoup. Puis je vais prendre une chance, je vais te dire à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
D'après moi, on va trouver quelque chose. Merci Sandra.
Salut.
Bye bye. Sandra Aubé, vice-présidente affaires fédérales chez TAC. Dans les prochaines minutes, Mathias Turcotte, notre journaliste terrain, s'amène en studio. Il nous a préparé un beau petit dossier. Fait qu'il va nous présenter ça. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard, il est 10h37.